We had to change. Emily wasn't on that flight. Otherwise, she would have known. We had to change planes in Munich to fly to Athens, and we waited for 11 hours inside of airplanes.
Pour voler jusqu'à Athènes, et on a attendu 11 heures à l'intérieur du même avion sans savoir, en fait.
So it was, you know, we really had to push to get there.
On a vraiment dû pousser pour arriver là-bas.
So we knew it was going to be exciting.
Donc on savait que ça allait être très intéressant et excitant.
Now there's so much that happened over that weekend. I'll try to keep it really simple for you.
Il y a tellement de choses qui se sont passées pendant ce week-end et je vais essayer de garder ça très simple en même temps.
Before we left, I told you that there was that we were going to encounter the spirit of Greece.
Donc avant qu'on soit parti, je vous avais dit qu'on allait un peu rencontrer cet esprit de Grèce.
And that's really what the whole 5 days was about.
Et en fait, ces 5 jours, c'était que à ce sujet-là, en fait.
We knew we would encounter, but we didn't really anticipate a confrontation.
Non, on savait qu'on allait rencontrer, qu'on allait être en contact avec cet esprit de Grèce. Hein? Oui, mais après, il dit, mais on savait pas qu'on allait le confronter comme ça, avec une telle intensité.
Yeah. But, yeah, to make a long story short,
mais je vais faire l'histoire très courte.
The spirit of Greece,
l'esprit de Grèce,
is basically a mindset.
C'est un peu un entendement, en fait.
And what it causes you to do is it causes you to reach for God through your mind.
Et en fait, ce que ça produit chez vous, c'est d'essayer d'atteindre Dieu à travers votre pensée.
So you want a right understanding of God.
Donc vous voulez avoir la bonne compréhension, le bon entendement au sujet de Dieu.
And what it does is it creates a separation of the sacred and the secular.
En fait, et ce que ça produit en plus, cet esprit de Grèce, c'est que ça produit une séparation entre le sacré et le séculier. Ça sépare les deux.
And so we ask questions like this. We ask God, what is right?
Alors du coup, on a posé des questions du genre, mais Seigneur, qu'est-ce qui est juste là-dedans?
What do you want me to do?
Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
How can I accomplish your plans?
Comment est-ce que je peux accomplir les plans que tu as?
Now, that mindset, it came out of the philosophy of Plato and Socrates.
Donc cet entendement dont on a été pollué, ça vient de toute la philosophie de Platon et de Socrate.
And it joined with the spirit of empire that was embodied by Alexander.
Et ça a été mis sous forme corporelle, on va dire, avec cet esprit d'empire carnalisé, on peut dire ça?
Oh, thanks.
Incarné, voilà, par Alexandre, l'empereur Alexandre. Il incarnait tout cet esprit grec, en fait.
And since the Renaissance, it has really taken over all of Western thought.
Et depuis la Renaissance, ça a pollué et ça a pris toutes les cultures occidentales.
Especially thought concerning God.
Et spécialement les pensées concernant Dieu.
Now, Christianity didn't start with that mindset, but we have inherited it.
Alors, le christianisme n'a jamais commencé avec cet entendement grec, mais on a pris tout ça, en fait, finalement. C'était dans notre environnement.
Yeah, we started out as, with a Hebrew mindset.
On a commencé avec l'entendement hébraïque.
And the Hebrew understanding is that God is all and he's in all.
Alors l'entendement hébreu c'est complètement différent, c'est que Dieu est un tout et il est en tout.
And so we end up asking different questions from this mindset. We end up asking different questions.
Et donc on a fini par se poser différentes questions après avoir compris ça.
We ask God, what are you doing?
Et on a demandé à Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et non plus, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse?
We ask God, what do you want me to see?
Et on demande à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux que je voie?
And we ask God, is there anything in me that displeases you?
Et on demande à Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui ne te plaît pas?
Do you see the difference between these two sets of questions?
Est-ce que vous voyez la différence entre ces différents types de questions sous l'esprit grec et sous l'esprit hébraïque?
The Greek would ask, what is right?
Les Grecs demandent qu'est-ce qui est juste?
The Hebrew would ask, what are you doing?
Et les Hébraïques demandent, mais qu'est-ce que tu es en train de faire?
The Greek would ask, what do you want me to do?
Et les Grecs demandent, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
The Hebrew would ask, what do you want me to see?
Et les Hébreux demandent, mais qu'est-ce que tu veux que je voie?
The Greek would ask, how can I accomplish your plans?
Et les Grecs disent, comment moi je peux accomplir tes plans?
And the Hebrew would ask, is there anything in me that disturbs you?
Et les Hébreux disent, est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui ne te plaît pas?
So essentially what it is in the Greek mindset, man is at the center.
Dans l'entendement grec, ce qui est là, essentiel, c'est que l'homme est au centre, toujours.
So man's understanding of God, man's plans for accomplishing his will.
La manière de l'homme de comprendre Dieu, les plans de l'homme pour accomplir ce que Dieu aimerait.
And the way that we do things.
Et la manière dont on fait les choses.
These are the things that in the Greek mindset are the most important.
Donc ça, dans l'esprit grec, dans l'entendement grec, c'est vraiment le plus important.
But in the Hebrew mindset, God is at the center.
Mais dans l'entendement hébreu, c'est Dieu qui est au centre.
And so we say, wow, God, you're doing something. What is it?
Et là, on se dit, wow, papa, là, tu fais quelque chose. Et qu'est-ce que c'est? Montre-moi.
Because I really want to know what you're doing.
Parce que je veux vraiment savoir ce que toi, tu fais.
And there's something that is beyond what I can see, and I want to see it.
Et il y a des choses qui sont au-delà de ce que je peux voir, et je veux vraiment voir ces choses.
So open my eyes, so I can see what
Alors,
you're doing.
Ouvre mes yeux pour que je puisse voir ce que toi tu fais.
Because I love to watch you.
Parce que j'aime te regarder.
And is there something in me that's keeping me from receiving your blessing?
Et est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui me retient de recevoir tes bénédictions?
And would you show that to me?
Est-ce que tu veux bien me le montrer, s'il te plaît?
And here's the difference. If God shows it, the Greek would say, "Okay, this is what I'm going to do about it."
Et la différence entre toujours l'esprit grec et l'esprit hébreu, c'est que là, on demande que ce soit Dieu qui nous le montre, alors que dans l'esprit grec, on est du genre, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça?
And the Hebrew would say, "What are you going to do about it?"
Et les Hébreux, ils disent, mais Père, qu'est-ce que tu vas faire avec ce truc là en moi?
So the difference is the Greek says what am I going to do and the Hebrew says God what are you going to do?
C'est puissant. Hein? Et alors les Grecs ils disent bon, qu'est-ce que moi je vais faire avec ce truc qui te déplaît? Alors que quand c'est dans la pensée hébraïque, on dit qu'est-ce que toi papa tu veux faire avec ce qu'il y a en moi? C'est fou hein. C'est fort hein.
Yeah. So the Hebrew comes from the place where he says God is sovereign.
Donc les Hébreux ils viennent de ce lieu où ils savent que Dieu est souverain.
And there's nothing that happens that is outside of God's will.
Et ils savent qu'il n'y a rien qui se passe en dehors de la volonté de Dieu.
So even when you see the devil moving, God is allowing that to happen.
Donc même si vous voyez partout le diable en train de faire plein de choses, c'est Dieu qui lui a permis de faire ça parce qu'il est souverain.
And so we have to say God, we see the devil moving. What are you doing here?
Et quand on voit toutes ces choses mauvaises qui se passent, etc., la question c'est Dieu. Il y a le diable qui fait pas mal de choses. Qu'est-ce que toi tu veux?
We see all this stuff. What is it that you want to show me? What is it that I'm supposed to recognize in this?
Il y a plein de choses qui se passent. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Qu'est-ce que je suis supposé reconnaître là-dedans?
Because God, you are totally good.
Parce que Dieu, tu es totalement bon.
You're in a good mood.
Tu es de bonne humeur.
So there must be something good that you're doing here while the devil is running around.
Donc il doit y avoir quelque chose de bon là-dedans, même si le diable fait quelque chose qui semble vraiment très 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 mal.
So show me.
Alors montre-moi.
Yeah. And so that's what our weekend was about.
Donc ça c'était notre week-end.
Our weekend was about seeing the Greek spirit try again and again and again to take over a meeting.
Et c'était vraiment, on voyait l'esprit de Grèce, mais vraiment, hein, qui essaie encore et encore et encore de foutre en l'air notre... Enfin, de... voilà, de prendre le contrôle de la réunion. Et c'est vrai, c'était vraiment usant à la fin.
And we watched God time and time and time again through the Hebrew mindset say, no, this is what I want you to see.
Et on a vu Dieu encore et encore et encore et très patiemment venir et avec la pensée hébraïque dire, non, ça c'est ce que moi je veux faire.
So what looked like a disaster for 4 days.
Donc ça semblait vraiment être un désastre pendant 4 jours.
Turned into a tremendous victory for God in the last half hour.
Et de la dernière demi-heure, ça s'est transformé en une énorme victoire pour Dieu. Voilà.
So just like we sat in a plane for 11 hours to take a 2-hour plane ride.
Donc juste comme on a attendu 11 heures dans un avion pour finalement voler pendant 2 heures.
While it was storming outside.
Quand il y avait une tempête dehors.
And all the other passengers on the plane were complaining.
Et tous les autres passagers de l'avion se lamentaient et râlaient.
We finally took off.
On a finalement décollé.
We got above the storm.
On est allé au-dessus de l'orage.
And we saw that the stars were still in the heavens.
Et on a vu que les étoiles brillaient encore dans le ciel et toujours.
So, that was our time in Greece.
C'était notre temps en Grèce.
And I want to tell you that that I think our relationship with that church and that network has only just started.
Et je pense que notre relation avec cette église et son réseau n'ont fait que commencer.
Yeah, because that represents a door into Eastern Europe.
Parce que ça représente une porte sur l'Europe de l'Est.
Yeah. And I believe that God will give us opportunities to go through that door.
Et je pense que Dieu nous donnera l'opportunité d'aller au-delà de cette porte.
So that the faith and the joy and the worship that has been planted here can go and be shared there.
Afin que la joie, la foi, la louange qui ont été plantées ici puissent aller avec nous au-delà de cette porte.
So we simply need to pray.
Donc, on a juste besoin de prier.
Lord, what do you want me to see?
Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je vois?
Yeah. What are you doing?
Qu'est-ce que tu es en train de faire?
Okay, and then practically,
pratiquement parlant.
Yeah, a bunch of people got healed.
Pas mal de personnes ont été guéries là-bas.
Yeah, Emily and Elena and Nadine and Janet spent 4 or 5 hours praying for people.
Emily, Nadine, Alana, Janet ont passé 5 heures à prier pour les gens.
And they saw a lot of healing.
Et on a vu pas mal de guérisons.
And there was a group
à chaque
sozo.
Fois, en fait. Et il y avait tout un groupe qui était là.
And a lot of people received healing of their heart.
Et beaucoup de gens ont reçu aussi la guérison dans leur cœur. Beaucoup, beaucoup. On a sozo et la Grèce.
Yeah. So, yeah, it was great. So,
c'était génial.
Yeah, thanks for praying for us.
Merci d'avoir prié pour nous, vraiment.
Voilà, merci. Qui ont impacté notre façon de penser au même moment et de façon opposée chacun. Ça a été ce fameux Descartes, hein, René Descartes, qui a commencé à dire, ben voilà, c'est l'homme qui est le centre, je pense, hein, je. Et donc, je suis. Et puis ensuite, il termine, on oublie souvent, donc Dieu est. Et l'homme, il se fait une image de Dieu à partir de qui il est lui, l'homme. Il humanise Dieu. Et vous avez, à la même époque, un homme extraordinaire, un grand savant, un des plus grands que la France ait jamais eu, qui a inventé la machine à calculer, qui a inventé... Il avait 12 ans, il a retrouvé le théorème de Pythagore sans aller à l'école. Il s'appelait Pascal. Et à la fin de sa vie, ce grand mathématicien, ce grand homme de science, ce grand philosophe, on a retrouvé dans la doublure de son manteau un petit bout de papier sur lequel il avait écrit sa conversion. Il avait écrit « Feu, feu, feu !» Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, non pas le Dieu des philosophes, mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Révélation, pleurs, pleurs de joie. Et ça a démarré une pensée française, une pensée rachetée, une pensée transformée par le Christ. Et au même moment, ces deux façons de penser ont grandi et elles symbolisent l'énorme combat spirituel qu'il y a entre deux mentalités. Et tout à l'heure, Rusty disait, parlait de la mentalité grecque qui voit les choses en deux, quoi. D'un côté, il y a les choses de Dieu, de l'autre côté, les choses du monde. Et c'est à cause de cette mentalité grecque qu'il y a si peu d'écoles chrétiennes dans notre pays. C'est simplement à cause de ça. Parce que des tas de gens se disent, il y a des domaines qui ne sont pas à Dieu. Il y a des domaines qui n'ont rien à voir avec Dieu. Les maths, c'est les maths, la géo, c'est la géo, l'histoire, c'est l'histoire. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Et parce qu'on pense ça, on ne s'investit pas dedans. Et donc ça, c'est le dualisme qui est hérité par les Grecs et les philosophes à la grecque. Non, mais derrière, c'est un esprit. Derrière, c'est un esprit. Et j'aimerais dire que même ce René Descartes, qui a le père du rationalisme, le père de celui qui dit c'est la raison qui triomphe. Vous savez d'où il a eu sa philosophie ? Il a eu dans un rêve, mes amis. Il explique lui-même, j'ai eu dans un rêve cette conviction que c'était la raison qui devait gouverner le monde et tout comprendre. Il l'a reçu d'une source occulte. Et donc c'est là qu'on voit que derrière le rationalisme, il y a l'occultisme. Il y a des puissances derrière qui ont manipulé. C'est quand même extraordinaire. C'est un catholique, c'est Jacques Maritain, qui a reconnu ce fait et qui dénonce ce fait en disant « Voilà ce rationaliste, voilà où il puise et voilà ce qu'il dit. » Donc nous vivons vraiment aujourd'hui encore, c'est très présent, ce combat qui est là. On n'en est pas indemne, chacun d'entre nous, mais le Seigneur veut nous montrer et démasquer un peu qu'est-ce qui coince encore. Qu'est-ce qui coince encore ? Rappelez-vous, c'est parce que Ésaü, il a vu un plat de lentilles, il avait faim, et il a dit « Bon, ben, je vais te donner mon droit d'aînesse en échange du plat de lentilles. » Il n'a pas compris que même dans un plat de lentilles, il y avait quelque chose il appartenait à Dieu, ce plat de lentilles. Vous voyez, c'était quelque chose qui était spirituel, ce plat de lentilles. S'il le prenait ou s'il ne le prenait pas, il y avait quelque chose d'énorme qui pouvait se passer. Mais il a considéré qu'un plat de lentilles n'avait pas grand-chose à voir avec les choses de Dieu. C'est pour ça que dans les Épîtres aux Hébreux, il nous est dit il était profane. Il a considéré les choses comme étant en dehors du royaume de Dieu. Et alors il a agi de façon inconsidérée. Donc nous avons vraiment ce combat qui est au cœur. Et j'aimerais rebondir là-dessus en introduisant rapidement ce qu'on veut voir maintenant. Juste une petite parenthèse, je remarque que ça fait plusieurs semaines où on démarre les cultes assez tard, souvent vers 10h20. Et du coup, on a du mal à tenir à midi, donc ça déborde toujours un peu. Alors c'est pas un mal pour tout le monde, mais parfois ça gêne d'autres. Donc juste une petite annonce, si on essayait d'être un peu plus ponctuel, on pourrait démarrer un peu plus à l'heure et du coup finir un peu plus à l'heure. Alors j'aimerais juste terminer par rapport à ce qu'on avait vu ensemble sur les noms de Dieu et le remettre dans la perspective de ce qui a été vécu ce matin, de ce qui a été partagé ce matin. Et par rapport à ces noms de Dieu, alors on a fait le tour, je ne vais pas en rajouter aujourd'hui, ce n'est pas le but, mais je veux quand même vous rappeler le problème qui se passe quand on a des fausses conceptions, un nom de Dieu qui n'est pas juste. Tout à l'heure, ce matin dans la louange, c'était El Shaddai. Le El Shaddai qui voulait se révéler à nous. C'était extraordinaire et ça fait monter le niveau d'adoration. Mais on voit dans la parole de Dieu, il y a un épisode, plusieurs épisodes même, où les hommes n'ont pas compris qui était Dieu. Et on voit ce qui va se passer. Et c'est dans l'évangile de Marc au chapitre 6, versets 1 à 6. Donc, quel nom donnes-tu à Dieu ? C'est la question que je pose. Hein. Jésus partit de là, se rendit dans sa patrie. Ses disciples suivirent, et quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses ? Quelle est la sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Josèse, de Jude, de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ?» Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est maîtrisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Juste un frère notait que Jésus dit qu'il ne pouvait faire aucun miracle, si ce n'est qu'il a imposé les mains à quelques malades et qu'il les a guéris. Qu'est-ce que c'est un miracle pour Dieu alors si la guérison, c'est le commun, quoi, hein ? Et on voit dans Luc 4 ce qui s'est passé dans cette synagogue. Et je lis à partir du verset 16, Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, il le remit au serviteur, s'assit, et tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et il y a eu la persécution, et il n'y a pas eu beaucoup de miracles qui ont pu se faire. Et là, j'aimerais juste, ça conclut notre série sur les noms de Dieu. Quel est le nom qu'ils ont donné à Jésus qui a empêché que Jésus fasse des miracles? Quel est le nom qu'ils lui ont donné? Est-ce que vous avez entendu le texte? Tu es le charpentier. Ils ont donné à Jésus le nom de fils du charpentier, charpentier. Le nom que tu donnes à Jésus détermine ce que Jésus fera dans ta vie. Si tu penses que Jésus est un charpentier, il va être bon pour faire des tables et des chaises dans ta maison, mais c'est tout. Le nom qu'on donne à Dieu détermine l'action de Dieu dans notre vie. Et ça, c'est un principe très important. Si on a une fausse conception de Dieu, il ne se passe pas grand-chose dans notre vie. Mais si on a la notion comme ce matin, Dieu El Shaddai, Dieu se révèle en El Shaddai dans notre vie. À chaque nom de Dieu qu'on a vu ensemble, si on l'a bien compris, s'il nous a bien été révélé, alors Dieu va se manifester d'après la révélation qu'on a de lui. C'est ça qui est très important. Donc, si tu mets Dieu en boîte, il reste dans une boîte, quoi, quelque part. Parce que c'est nous qui le coinçons. Mais si tu commences à l'élever, à élever son nom, comme on le fait dans l'adoration. C'est pour ça que c'est tellement important l'adoration dans un culte. C'est tellement important. Il y a la parole et il y a l'adoration. Et le reste, c'est important, mais c'est secondaire. Donc, dans l'adoration, on élève son nom et on permet à ce nom qui est élevé de se manifester au milieu de nous. Donc, c'est ça qui est important, vous voyez. Élever le nom de Jésus, le nom tel qu'il dit lui-même qu'il est. Les Grecs, ils disaient... L'important, c'est de se connaître soi-même. Et tu vas régler tous les problèmes de ta vie. Le problème, c'est l'éducation, voyez. C'est ça qu'il pensait. Mais Jésus dit, le problème, c'est le péché de l'homme. C'est le péché de l'homme. Et le problème, c'est pas... La solution, c'est pas te regarder. Mais la solution, c'est regarder Dieu. C'est ça, la solution. Et la solution, elle n'est pas en nous. Elle est en lui. Elle est dans ces noms de Dieu qui sont autant de solutions... À nos difficultés, à nos problèmes. Donc, dans cette période particulière, on dit, c'est la période de Hanouka, c'est la période aussi de Noël, tout ça, c'est le Dieu lumière, Dieu incarné. Ce que Dieu fera pour nous dépendra du nom qu'on lui donne et qu'on adore. Du nom qu'on lui donne et qu'on adore. C'est pour ça que l'adoration est une clé. Elle est une clé parce qu'elle élève Jésus. Et maintenant, ça, c'est la première conclusion de la série sur les noms de Dieu. Il y en a une deuxième que j'aimerais juste un petit peu plus développer. C'est quel est le nom que Dieu lui-même t'a donné? Et c'est là que je vous invite à lire dans Genèse 32, versets 24 à 33. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. » Et il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Je suis Jacob. » Et il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Et Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Et il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Et Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Vous remarquez que c'est une histoire de nom. Hein. Non seulement Dieu dit « je vais changer ton nom », mais nous avons Jacob qui va dire « le lieu sur lequel je suis, je vais changer son nom aussi, je vais lui donner le nom de Péniel », ça veut dire « face à face avec Dieu ». Intéressant, ces histoires de noms. Hein. On est toujours dans une thématique un peu étonnante. Et Jacob appela ce lieu de Péniel parce qu'il dit « j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée ». Le soleil se levait lorsqu'il passa à Péniel et Jacob boitait de la hanche. Et c'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche. Alors, vous savez, le contexte de ce passage, c'est un contexte très particulier. Jacob, il est au seuil de la terre promise, mais il n'y est pas encore. Moi, je crois qu'il y a un texte d'actualité ici, pour nous, Église. Pour nous, Église, il y a un texte d'actualité. On est au seuil de ce pays promis, quelque part, avec Caleb, avec ses projets, avec ses... tout ce qui est devant nous, qu'on a saisi par la foi déjà. Mais dans cette terre de promesses, on n'y est pas encore pleinement. Mais Jacob était devant, et je veux dire, il a été le rusé, le supplanteur jusque-là. Il a roulé son frère aîné, il a roulé son père, il a pris la bénédiction qui aurait dû revenir à son frère aîné. Il va chez Laban. Chez Laban, il a dû lutter aussi. Il n'a pas été tout à fait droit dans tout ce qu'il a fait. Malgré tout, il y avait la bénédiction. Bref, et là, il revient pour retourner chez lui, et il risque sa vie, parce qu'il ne sait pas du tout comment son frère, qui a été roulé par lui, va le prendre. Donc il risquait la mort, mais il risquait la mort. Tout ce qu'il avait travaillé, tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il avait reçu, les brebis, les femmes, les enfants, tout cet héritage, il ne savait même pas s'il allait pouvoir vivre avec tout ça, si ça allait rester encore. Il avait peur que ça soit décimé. Et donc, dans ce moment-là, il était seul, il était seul. Il était au pays, au seuil du pays de la promesse, et il était seul. Et toutes ces ruses l'ont amené dans cette situation, exclu du pays de Haran, de Laban, à cause un peu de ses tromperies aussi, quelque part. Livré à la colère de son frère Ésaü, abandonné apparemment par Dieu. Eh bien, situation désespérée, s'il en est. Et il comprend, quelque part, il va comprendre tout le méchant côté, l'horreur de son péché. On va voir ce que c'est son péché, l'abjection de son moi. Ça, il va comprendre dans ce lieu son incapacité. Et ça, c'est assez étonnant de voir qu'il n'y a pas de terre promise sans qu'il y ait une compréhension de son incapacité totale. Et Dieu, parfois, avant les terres promises, il nous met à genoux. Parce qu'il nous dit, tu vois comme tu es incapable, tu n'es pas capable. Et tant qu'on est indépendant, qu'on se sent capable, on n'est pas capable de rentrer dans le pays promis. Donc parfois on a l'impression que Dieu est contre nous, alors qu'il est pour nous. C'est comme s'il avait sa main droite qui nous bénit, mais sa main gauche qui nous torture quelque part. Parfois on dit c'est le diable. Mais attention, Jacob, ce n'était pas le diable avec qui il luttait. C'est facile de dire c'est le diable. Mais parfois il y a des situations où c'est Dieu qui est contre nous. Il nous aime toujours, mais il est contre notre indépendance. Il est contre notre autonomie. Il est contre notre volonté de marcher tout seul. Et ça, quand on se le prend en face, comme Jacob, il y a quelque chose, ça fait mal. Et voilà, donc, il va se rendre compte de tout ça, et que tout ce qu'il a amassé au fond, eh ben c'est peut-être rien et ça ne va pas durer. Et la tentation, vous voyez, ce récit se passe dans la nuit. Il y a des moments où on est dans la nuit. Il y a des moments où on est tout seul. Et c'est comme un prototype d'une circonstance dans laquelle celui qui est éprouvé, c'est-à-dire nous tous, on peut apprendre à surmonter ces nuits noires sans désespérer. Sans désespérer. Cette nuit noire, cette nuit de solitude, eh bien, c'est une nuit de tentation où Dieu a touché quelque chose chez lui qui va amener une grande délivrance. Une grande délivrance. Alors, on expérimente non plus Dieu quelque part comme un Dieu qui est pour nous, mais on l'expérimente comme celui qui est contre nous. J'aimerais préciser, contre une partie de nous. Hein, contre une partie de nous. Et c'est par amour qu'il lutte contre une partie de nous. Alors, on voit qu'il va sortir vainqueur. Dans ces ténèbres, Jacob a tenu bon. Il a vu le combat, il a vu Dieu qui combattent contre lui d'une main, mais qui le bénit d'une autre. Assez étonnant. Et il y a un cri de désespoir chez Jacob, on va le voir. Ce cri, il n'est pas dit dans ce texte de Genèse, mais il est dit par le prophète Osée. Et les Écritures s'expliquent toujours par les Écritures. Et il est important de lire ce texte à la lumière de ce qu'en dit plus tard le prophète Osée. Donc, on va voir que dans cette lutte, des premiers versets qui parlent de lutte, c'est une lutte physique, mais c'est une lutte spirituelle aussi. Et il y a un moment, il y a le mot, il est dit, l'ange m'a touché. Il m'a touché. Et quand il a touché, il a démis la hanche. Mais ce mot touché, c'est le même mot quand vous avez dans Ésaïe, par exemple, le prophète Ésaïe qui dit, mais mes lèvres sont impures. Je suis au milieu d'un peuple impur. Seigneur, touche mes lèvres. Et l'ange a touché les lèvres de prophète Ésaïe. Et là, pareil, l'ange a touché. Mais quand touché, c'est pas le câlin. Et c'est pas le câlin, c'est vraiment il a touché là où ça faisait mal, il a touché ce qui résistait. Et la hanche, vous savez, c'est quand même le symbole de la force. La hanche, c'est le symbole de la force, c'est le symbole de l'indépendance. D'ailleurs, je suis tout seul, je me tiens tout seul, debout. Et ce symbole de l'indépendance, c'était ça l'obstacle chez Jacob. C'était ça l'obstacle. Et il fallait, avant la terre promise, avant l'héritage, il fallait que Dieu touche l'obstacle. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait un travail du Saint-Esprit dans nos vies, dans ces périodes où justement on est à l'aube de rentrer dans toutes les promesses que Dieu a pour nous. Ce n'est pas étonnant, mes amis. Si c'est difficile en ce moment, si tu as l'impression que ta hanche est touchée, eh bien, ne t'étonne pas. Et comme Jacob, dans cette nuit, eh bien, il pensait jusque-là pouvoir se débrouiller tout seul. Jacob était très débrouillard. Jusque-là, il était rusé, il était intelligent, il a fait prospérer une sacrée intelligence quelque part, une sacrée bonne gestion, mais il croyait se débrouiller tout seul, toujours tout seul. Et ça a marché jusque-là. Et parfois, Dieu nous laisse, ça marche jusqu'à un certain point. Et il y a un moment, ça ne marche plus. Et là, Dieu travaille Jacob, et comme il travaille chez nous, pour briser cette indépendance, cette autonomie, pour briser tout ça. Et alors, l'assaillant, parce qu'il ne savait pas qui était cet assaillant, hein, il ne savait pas. Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et on voit que Jacob, il se rend compte que l'assaillant est quelque part plus fort que lui. Et c'est d'ailleurs étonnant comme texte, parce qu'il y a un moment, on a l'impression que c'est Jacob qui est plus fort que l'assaillant. On a d'autres fois l'impression que c'est l'assaillant qui est plus fort que Jacob. Mais là, Jacob, il reconnaît le caractère plus fort de cet assaillant. Et alors il va lui dire, je te lâche pas, laisse-moi aller, mais je veux pas te lâcher maintenant. Et alors on voit, c'est Osée qui dit, Osée 12:5, il sortit vainqueur en pleurant. Jacob sortit vainqueur en pleurant et en demandant grâce. Ça, c'est étonnant. Vous savez qu'il y a des victoires quand on pleure sur nous-mêmes et qu'on demande grâce. Les grandes victoires ne sont parfois pas dans le triomphe. Les grandes victoires sont dans l'échec personnel. C'est la victoire de Dieu. Ce n'est peut-être pas la tienne à tes yeux, mais c'est celle de Dieu. Et les vraies victoires, ce n'est pas celle que nous on nomme victoire, mais c'est celle que Dieu nomme victoire. Et quand il voit un homme qui a toujours voulu marcher tout seul, et qui enfin est touché dans sa hanche, et qui commence à dire, maintenant je ne peux plus être tout seul, où elle est toute ma force, eh bien, ma force est en Dieu. Et là, il y a une victoire de Dieu. Dieu touche ce qu'on a de plus précieux souvent. Pour Abraham, il a touché son fils. Pour Jacob, il a touché sa hanche. Il touche toujours des choses comme ça, mais pas pour nous avilir, pas pour nous rabaisser, mais pour que lui soit élevé dans nos vies. Et alors la bénédiction, lorsque le coup qu'il a encaissé était révélateur pour Jacob, hein, il a cette hanche, ce symbole d'indépendance, il a reconnu là le caractère céleste de son adversaire. Et alors il lui a demandé la bénédiction. Il se rend compte à présent que toute sa vie dépend d'une chose, la bénédiction. La bénédiction. C'était plus lui. Il se rendait compte que la réussite de sa vie ne dépendait plus de lui. Tout à l'heure, il y a une parole qui a été donnée, hein, c'est Manuela qui disait, c'est ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Le chant qu'on a chanté, c'est plus moi qui parle, c'est toi qui parles, etc. Ça, c'est le chant qui parle de la dépendance de Dieu. Il illustre la dépendance du Fils avec son Père. Et il illustre la victoire sur l'indépendance, ce chant. Eh bien, même si on est resté un peu indépendant dans l'orthographe, parce qu'on a voulu mettre un S là où il n'y en avait pas, mais bon, ça, il faudrait que ça soit corrigé, ce chant. Je disais tout à l'heure à Daniel, j'ai compris, depuis jeune chrétien, je me dis, mais pourquoi les gens, ils louent les yeux fermés? Et j'ai compris ici, parce qu'en fait, c'est les fautes d'orthographe dans les chants, et alors on ne veut pas les voir et on ferme les yeux. Voilà. Ça peut être une des raisons. Ça peut être une des raisons. Alors, voyez, l'arme de Jacob, ça a été quoi l'arme de Jacob? Quelle est cette arme qu'il a fallu pour vaincre le personnage céleste? Est-ce que c'est sa force physique? Eh bien non. Est-ce que c'est ses mérites? Eh bien non. Est-ce c'est ce qu'il est? Eh bien non plus. Sa seule arme, c'est celle que Dieu lui-même lui a mise dans ses mains. Et c'est la promesse que Dieu lui avait donnée. Cette terre, je te la donnerai et je ne l'abandonnerai pas. Elle est pour toi et ta descendance. Et Jacob était sans rien, mais il avait une promesse. Et il a dit, je ne te lâcherai pas, que tu m'aies béni, que tu me fasses du bien. Et voyez, ça c'est la foi. C'est l'arme de la foi. C'est l'arme de la foi. Alors, quand l'ange lui dit quel est ton nom, eh bien Jacob a dû reconnaître son nom. Et son nom, vous savez, ça veut dire supplanteur, celui qui est rusé. Il a dû dire son nom, qui il était vraiment, avant que Dieu lui donne son vrai nom. Dieu ne change jamais le nom de celui qui ne reconnaît pas qui il est, pécheur. Et vous savez, les circonstances, que ce soit des circonstances de difficulté au niveau relationnel ou autre, c'est les circonstances que Dieu envoie, et je dis bien que Dieu envoie, en particulier les conflits, Dieu les envoie pour faire ressortir ce qui est dans notre cœur. Et jusqu'à ce qu'on comprenne que c'est pas un tel ou un tel qui me combat, mais quelque part, il y a Dieu qui permet ça pour révéler ce qui est en moi. Et vous savez, le combat entre Ésaü et Jacob, c'était pas évident, ce combat, cette lutte, cette jalousie entre les frères, vraiment, c'était pas évident. Mais il a fallu que Jacob, à un moment, il capitule, il dit, je m'appelle supplanteur, je m'appelle comme ça, je suis comme ça. Et alors, c'est là que Dieu, l'anéantissement de Jacob était la première marche pour que Dieu agisse enfin et lui dit, ben voilà, tu t'appelleras plus Jacob, mais tu vas t'appeler Israël. Alors Israël, il y a beaucoup d'interprétations pour l'étymologie d'Israël. Israël, ça veut dire lutter, ça veut dire combattre, mais ça veut dire aussi, le sens étymologique, c'est Dieu gouverne. Dieu gouverne. Comme on l'a dit tout à l'heure, la pensée grecque, il pensait que Dieu était dans les temples. La pensée hébraïque, Dieu dit, je suis dans le cosmos. Et mon temple, c'est le cosmos. Ça, c'est pas pareil. Donc, la notion que Dieu gouverne, c'est Israël. Donc, Israël, c'est pas seulement la notion d'une lutte, c'est la compréhension de la souveraineté de Dieu sur tous les aspects de la vie. C'est ça, Israël. Ton nom, c'est Israël. Dieu règne. Hein. Elle, c'est Dieu. Sarah, Israël, ça veut dire régner. Et nous avons Dieu règne. Et alors, Jacob, il a appelé ce lieu Péniel, car il a dit, j'ai vu Dieu face à face. Et alors, ce qui est beau, c'est qu'à partir de ce moment-là, vous savez ce qui s'est passé? L'aurore est venue. C'est bizarre. Le combat était dans la nuit. Le combat se finit. Il reconnaît son péché. Dieu lui dit, maintenant, tu es Israël. Et le jour nouveau vient. Le soleil se lève pour une nouvelle journée d'onction différente. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si Dieu disait, et d'ailleurs, il l'a fait, je prends en main ta vie maintenant. C'est moi qui la prends en main. Et alors, la vie de Jacob, c'est devenu l'affaire de Dieu. C'est devenu l'affaire de Dieu. C'était plus du tout été l'affaire de Jacob. Et on voit le chemin de Jacob était un chemin de descente jusque-là, jusqu'à ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, ça devient un moment de montée. De monter. Un autre homme. Et à la fin de sa vie, Genèse 49, 18, Jacob, il dit cette phrase extraordinaire, toute simple. Ô Éternel, je m'attends à ton salut. voyez, cette attente de Dieu, ce désir de voir les promesses de Dieu jusqu'au bout, il va l'avoir. Le fruit de cette expérience, ça a été le premier fruit, ça a été le fruit dans la relation avec Ésaü. Et vous voyez, il est dit, comme Jacob, la personne qui se convertit aura une nouvelle relation avec elle-même et avec son prochain aussi. Et on voit dans le chapitre suivant, on ne va pas le lire, une extraordinaire nouvelle relation avec Ésaü. Et vous savez, quand il rencontre Ésaü, et d'abord il envoie les femmes, il disperse la troupe d'abord, hein, il a peur. Il se dit, au moins s'il y en a qui sont massacrés, on va faire en sorte qu'ils ne seront pas tous massacrés. Donc il divise toutes ses femmes, ses enfants, son bétail en petits groupes comme ça. Et il les envoie devant lui avec des grands cadeaux pour Ésaü. Des cadeaux. Il s'est dit qu'on va le submerger de cadeaux, peut-être qu'il va me faire grâce. Imaginez la peur. Hein. Alors il envoie les femmes, il envoie les enfants, les petits groupes et tout ça. Et puis ensuite il arrive et il est devant Ésaü. Et là, il dit, c'est le verset 10 du chapitre 33. Regardez ce qu'il dit. « J'ai vu ta face comme on regarde la face de Dieu. » J'ai vu ta face comme on regarde la face de Dieu. L'expérience qu'il a faite avec Dieu l'a transformé sa vision et il a vu Dieu dans son frère. Est-ce que tu vois le Christ dans ton frère et dans ta sœur? Et parfois, le face-à-face avec Dieu absolument n'est pas tout, parfois toujours nécessaire pour qu'on voit dans notre prochain l'image de Dieu et celui que Dieu veut qu'on honore, qu'il soit chrétien ou pas. Et quand on en est à ne pas voir dans notre prochain, même le plus embêtant, l'image de Dieu, c'est qu'il y a un face-à-face avec Dieu qu'on a besoin de retrouver. Vous vous rendez compte de cette phrase? Ces frères qui étaient séparés, ces frères qui voulaient... Ésaü a voulu tuer Jacob au début. Et Jacob, imaginez cette relation. Mais j'ai vu ta face comme on regarde la face de Dieu. Alors voilà, une nouvelle relation avec Dieu, c'est toujours une nouvelle relation avec son prochain. Et cette attitude de Jacob qui a lutté toute la nuit, ça nous annonce un autre homme qui a lutté toute la nuit aussi. Et c'est Jésus qui a lutté à Gethsémané et qui a lutté entre sa volonté et la volonté de Dieu. Et qui au bout d'un moment, il a tellement lutté que des grumeaux de sang ont coulé. Et ça a été un combat physique et spirituel intense. Un combat, non pas ma volonté Seigneur, pour arriver à dire ça, mais la tienne. Et c'est là que il y a eu ensuite tout le récit de la croix qui est la délivrance pour tous les rachetés. La délivrance dont on hérite aujourd'hui a été le fruit du combat de toute une nuit d'un homme qui a commencé par dire « c'est pas ma volonté, mais c'est la tienne ». Il est bien évident que le prix que Dieu a payé pour nous racheter, il dit « mais toi tu m'appartiens maintenant, tu m'appartiens, tu es à moi, tu n'es plus à toi ». Est-ce que tu as compris ça? Tu n'es plus à toi. Tu ne peux plus faire ce que tu veux. Dans les choix, tu n'es plus à toi, tu es à moi. Et voilà, le but de ce récit, c'est de rappeler à la nation d'Israël, je termine par là, sur le point d'entrer dans la terre promise, que cette victoire ne lui viendra pas, comme aux autres nations, par la force, mais par la puissance de la bénédiction de Dieu. Et plus tard dans l'histoire, le prophète Zacharie va rappeler à Israël que la restauration dans le pays ne sera pas obtenue par la force, mais par l'Esprit du Seigneur. Les bénédictions de Dieu viennent de sa grâce et Dieu est obligé d'entraver parfois notre force naturelle, la force naturelle de ses serviteurs, pour qu'ils soient forts, non plus en eux, dans leur propre talent, mais qu'ils soient forts dans la foi. Et ça, c'est l'histoire de Jacob. Et moi, en voyant ce texte, et par rapport au nom de Dieu, Dieu dit, tu vois tous les noms que tu veux adorer, voilà, je vais me révéler d'après les noms que tu adores. Et en même temps, Dieu dit, non seulement je vais me révéler dans ta vie d'après les noms que tu adores, mais je vais te donner un nouveau nom. je vais te donner un nouveau nom. Moi, je crois que Dieu nous a déjà donné, en tant qu'Église, un nom nouveau. Le nom de Josué est le nom que Dieu a donné à cette Église. Le caractère, l'identité qu'il a donné, c'est dans ce nom. Et nous sommes au bord de quelque chose qui est important. Alors ne baissons pas les bras, continuons à lever les yeux et continuons à lutter en disant « Seigneur, je ne vais pas te lâcher jusqu'à ce que tu m'aies béni, jusqu'à ce que tu m'aies béni, même si c'est au prix d'une hanche qui se déhanche. » Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que pour nous, à cause de ce que tu t'es révélé, tu n'es pas un charpentier seulement, Seigneur, mais tu es un sauveur. Tu es un Seigneur. Tu es celui que nous avons choisi de suivre et de marcher avec. Tu es celui que nous avons choisi d'aimer et d'adorer. Et Seigneur, merci aussi pour le nom que tu nous as donné. Alors il y a un nom collectif, mais il y a aussi un nom pour chacun ici. Et je te prie que dans les luttes de Jacob, dans lesquelles nous pouvons être, dans ces nuits dans lesquelles peut-être certains d'entre nous sont, eh bien tu leur donnes la force de tenir et d'embrasser ta personne et tes promesses jusqu'à ce qu'elles s'accomplissent, Seigneur. Seigneur, merci, nous recevons ton esprit et nous disons que dans les mois qui viennent, que ce soit cet achat de ce lieu, que ce soit les activités de Caleb, culturelles pour toucher cette ville, que ce soit dans ce monde qui est perdu, ces musulmans, ces réfugiés, Seigneur, que ce soit dans tous ces gens que tu nous montres, nous voulons, Seigneur, te dire ton esprit. Par ton esprit, nous arriverons à faire ce que toi tu veux qu'on fasse, Seigneur. Alors merci de nous renouveler ce matin. Merci pour ces déboîtés que nous sommes, ces incapables sans toi, mais merci pour ces hommes et ces femmes de Dieu en toi, capables, parce que princes et princesses, dans ton royaume et dans ta terre promise que tu as pour nous. Seigneur, que ta bénédiction soit sur chacun, petits et grands, sur les mamans qui sont seules, sur ceux qui sont dans la foi, dans des domaines de combat de la foi. Et Seigneur, nous prenons ta promesse et ta bénédiction et nous disons, nous accrochons à ça jusqu'à ce qu'on voit toutes tes promesses réalisées dans nos vies, dans nos enfants, dans cette église, dans ce pays, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, soyez...